Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Ça fait quelques années que Pascal Elbé nourrit et optimise le cinéma français de ses talents d'auteur, d'acteur et de réalisateur. Cette fois-ci, il a réuni les trois dans une comédie d'une humanité, d'une drôlerie, d'une justesse et d'une émotion sans pathos formidablement réjouissante. Comédie qui, en fait, élève l'art de la comédie romantique et parfois grinçante à son meilleur niveau. Ce film a pour titre « On est fait pour s'entendre ». Il est servi par un casting 5 étoiles, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli, Emmanuel Devos, François Berléand, Claudia Tagbo, Marthe Villalonga, et il est en salle depuis mercredi. Alors voilà. Voilà, c'est très simple. Je suis absolument ravie de vous accueillir, cher Pascal Elbé.
Merci, merci moi aussi, je suis ravie d'être là.
Alors Pascal Elbé, le bruit c'est la vie, même si parfois le bruit c'est l'enfer. Le silence c'est la paix, même si souvent c'est la solitude. Or, dans votre film, vous dites, et en connaissance de cause, puisque vous avez perdu l'audition, vous dites, j'ai repéré hein, cette réplique, entre l'enfer et le silence, bah, je préfère encore l'enfer.
Oui, ben oui, parce qu'en fait, l'enfer, le bruit, c'est ce qui vous relie à la vie et aux autres. Et c'est vrai que parfois, évidemment, on est pris dans la tentation du repli, du silence, qui est très, très confortable, très agréable, mais qui peut aussi vite devenir oppressant. Mmh. C'est un peu comme dirait David Lodge dans son livre « Ma vie en sourdine », c'est le long silence qui nous attend par la suite. Alors évidemment, parfois on est un peu trop sollicité quand on est appareillé, le bruit peut être aussi très agressif, mais en réalité, oui, je préfère encore, j'ai toujours le goût des autres, même avec du bruit, même avec cette fureur, ça me ramène à la vie.
Quand on n'entend plus, bien sûr, on est le dernier à s'en rendre compte.
Mmh. Malheureusement, c'est plutôt l'entourage qui vous donne des signaux d'alerte pendant un laps de temps assez important avant de se rendre compte que le problème vient de l'intérieur. Mais au début, on pense que ce sont...
Il y a un vrai déni au départ.
Oui, il y a un déni. On pense toujours que les gens ne parlent pas assez fort ou pas assez distinctement, n'articulent pas. Bien sûr.
Alors, ce silence dû au problème d'audition, c'est une paix artificielle, effectivement, parce qu'il isole. En fait, quand on n'entend pas ou mal, on passe au mieux pour quelqu'un d'indifférent. Au pire, pour quelqu'un d'intellectuellement diminué?
Oui, on peut dire ça, un taré. Ben oui, parce que souvent on tape à côté, on se dit « mais si je ne comprends pas ». Ou alors parfois on pense qu'on le fait exprès. Vous savez, le fameux « mais je ne comprends pas, tu fais exprès, t'es bête, tu le fais exprès ». Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'on est à côté, et que c'est parfois volontaire, alors qu'en fait, on est, évidemment, on subit.
On subit. Bon, ce sujet, vous l'avez donc développé dans une comédie, je le répète, hein, formidablement drôle, humaine, intelligente, sans pathos, où les choses grincent en fait, comme dans la vie vraie, avec une bande d'acteurs tous bluffants, hein, Sandrine Kiberlain en tête. Mais avec un tel sujet, Pascal Elbé, la comédie, c'est sans doute le genre où il faut être le plus équilibriste. Hein. C'est pas évident.
Oui, mais vous savez, c'est ma vie d'être pour les raisons que vous avez évoquées avant, c'est ma vie d'être un espèce de funambule ou d'équilibriste tous les jours pour pas passer pour un rabat-joie ou un débile. Donc finalement, c'est devenu ma profession d'être un funambule au fil du temps, du quotidien. Mais c'est vrai que c'est ce genre de... Évidemment, je traite d'une singularité ou d'un handicap, si vous voulez, qui est quand même assez léger. On parle pas de surdité ou de...
Bien sûr, c'est pour ça que j'ai des pertes d'audition.
Donc voilà, donc c'est vrai que c'est... Puis moi, je veux dire, c'est un ressort comique qui est absolument vertigineux. Hein, quand moi, mon quotidien, si je vous racontais parfois les choses qui m'arrivent,
mais dites-nous.
Oh ben, il m'en arrivait beaucoup, il m'arrivait pas. Si vous voulez, un exemple parmi tant d'autres, j'ai croisé un jour une jeune femme dans un dîner qui me disait qu'elle me trouvait très antipathique parce qu'en fait, je l'ai croisée dans un avion. Elle était avec un bébé dans les bras et une valise, les bras chargés. Elle m'a demandé de l'aider à soulever sa valise et je lui ai souri et je me suis assis. Voilà, vous voyez. Donc évidemment, c'est pas hyper smart comme approche. Donc elle pensait que j'étais un type complètement antipathique. Donc ce jour-là, j'ai eu mon droit de réponse, mais on l'a pas toujours.
Voilà.
Donc évidemment que ça fait rire et c'est drôle. Essaye de taper à côté, c'est toujours drôle. Depuis la tragédie antique, les malentendants ou les sourds font rien.
En fait, votre droit de réponse, il est justement dans cette comédie. On est fait pour s'entendre. Et alors, cette comédie, elle démarre avec une scène redoutablement drôle et signifiante. Et voilà, ça pourrait être mis dans la liste de ce que vous venez de nous confier. C'est une scène d'amour. Vous êtes dans un lit et au moment le plus crucial, votre partenaire vous demande de lui dire les mots qui l'excitent. Sauf que vous entendez pas ce qu'elle dit. Donc, son désir retombe comme un soufflet qui s'effondre. Voilà, le décalage et l'incompréhension, ça va se nicher partout en fait. Et tout le excitant quand on perd l'audition.
Ah mais c'est une course d'obstacles au quotidien. C'est compliqué. C'est par exemple si un malentendant garde l'appareil au moment de s'endormir, ça fait l'arsène avec le coussin, avec l'oreiller. Donc il est obligé de l'enlever. Mais quand vous l'enlevez, vous pouvez dire à votre partenaire à demain. Parce que c'est...
voilà. Alors vous dites à votre partenaire à demain, et puis vous dites aussi à votre réveil à plus tard, que vous l'entendez pas sonner.
Ah oui, moi il m'arrivait de... Enfin, je ne vais pas tout raconter, mais il m'est arrivé une fois d'être réveillé avec la porte de l'hôtel parce que j'entendais une alarme au loin qui sonnait, en me disant qu'il doit y avoir un chantier. Et au bout de trois quarts d'heure, j'ai eu la porte de ma chambre d'hôtel être défoncée parce qu'on me disait que c'était une alerte incendie et qu'il fallait que j'évacue l'hôtel. Moi, je pensais que c'était dehors. Bon, évidemment, une fois sur deux,
donc
vous passez quand même...
Vous n'exagérez pas, en fait, dans le film.
Ah non,
dont vous êtes l'auteur, le scénariste, le dialoguiste. Voilà, vous êtes en dessous de la réalité.
Ah oui, oui, là, j'ai dû le coup. Oui, il fallait que... Oui, je n'allais pas tout raconter, mais c'est vrai que c'est fou. C'est fou de ne pas... Bah, encore une fois, quand on n'est pas relié par le son, par le bruit à l'autre, on est à côté.
Ça doit être chouette, Pascal Elbé, d'être votre voisin avant que vous ne soyez appareillé.
Alors, oui, il y a eu des plaintes.
Il y a eu des plaintes. Je me suis renseignée sur les chiffres, justement, et ils sont très impressionnants. En France, 8 millions de personnes ont des problèmes d'audition. 4 200 000 sont réellement malentendantes. Et sur ces 4 200 000, 88% sont devenus sourds au cours de leur vie. Mais il y a seulement 600 000 personnes qui sont appareillées, ce qui signifie que 70% des malentendants ne portent pas d'appareil. C'est à peine croyable. Donc, les gens qui voient mal, ils portent des lunettes. Pourquoi les gens qui entendent mal ne corrigent pas leur audition ?
Alors, évidemment, on se pose la question. Parce que d'abord, c'est un handicap invisible. Il est assez ingrat, il est souvent moqué. Ouais. Parce que, évidemment, on finit toujours par entendre. Mais on n'est pas sourd profond, on n'est pas aveugle. Donc on finit par entendre, donc on peut encore... Il y a un petit espace pour encore se moquer de nous. C'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que j'ai appris, d'ailleurs, en faisant la promo de mon film, que les femmes étaient, en général, dans la prévention, beaucoup plus alertes que les hommes. Elles s'équipent davantage, elles sont équipées plus tôt. Oui. Les hommes, peut-être, ils s'estiment atteints dans leur virilité. Vous savez, c'est le début des emmerdes, c'est le début de la vieillesse. Mais en fait, il y a des jeunes qui sont appareillés, ça commence très tôt, il n'y a pas d'âge.
Oui. Oui.
Mais on a l'impression d'être diminué, d'être amputé de quelque chose, on en a un peu honte. Et même moi, aujourd'hui, parfois, c'est embarrassant de le révéler, de le dire. C'est quelque chose d'assez trouble, vous avez raison.
Mais bon, vous êtes jeune, Pascal Elbé, vous avez perdu l'audition comment ?
En fait, je ne sais toujours pas. Je sais que le jour où j'ai été détecté, il y a une dizaine d'années, on m'a dit que c'était héréditaire, personne ne l'est chez moi. Et puis après, évidemment, il y a plein d'images qui vous reviennent, vous savez, dans votre jeunesse. Et puis vous voyez les cours de langue, vous avez du mal, vous voyez, en fait, vous voyez plein de situations, vous vous rendez compte que déjà à l'époque, vous étiez...
A posteriori,
oui.
En fait.
Ah mais complètement, et c'est fou, parce que les paroles des chansons, quand je voyais mes camarades chanter des chansons par cœur, je me disais, mais comment ils font pour apprendre toutes ces paroles ? Alors que moi, j'étais quand même comédien, que la mémoire et le texte, ça fait partie de mon métier. Je ne savais pas comment. En fait, je ne les entendais pas, ces chansons.
Mais alors, justement, vous dites, je suis comédien, c'est quand même extraordinaire, parce que ça doit être préoccupant pour un acteur d'avoir une perte d'audition, étant donné que votre matériau, c'est l'échange et c'est l'écoute quand on joue. Vous avez le sentiment que si vous n'aviez pas corrigé cette perte d'audition, ça aurait pu transformer sensiblement votre jeu ?
Ah non, j'aurais arrêté de travailler.
Carrément.
Pour moi, l'acteur, le jeu, c'est l'écoute.
Mais
un moteur, c'est l'écoute le matin.
C'est le premier carburant, l'écoute.
Ah mais complètement, on ne cale pas une intention, on est à l'écoute de son partenaire et c'est comme ça qu'on a le ton, qu'on trouve le ton et l'enjeu de la scène, c'est l'écoute. Et un jour j'ai joué une scène au cinéma avec un partenaire qui jouait très doucement, c'est comme ça, il est sûr d'être juste, et j'étais largué. Voilà, réellement largué, je ne comprenais plus et donc je me suis dit, là il faut que je fasse quelque chose. Mais en réalité, c'est encore particulier, parce qu'un plateau de tournage, on dit silence, moteur.
Ouais.
Le silence qui précède vous aide à rentrer dedans. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est à table ou en présence de beaucoup de gens, quand on est dans un endroit assez clos, assez fermé, assez restreint, là on est à la peine.
Mais alors, vous avez hésité dans votre univers professionnel, donc le milieu du cinéma, à dévoiler ce qu'on pourrait appeler une faiblesse avant qu'il n'y ait l'appareillage ?
Oui, bien sûr, j'ai hésité. C'est toujours un peu embarrassant de révéler à l'autre qu'on est diminué ou qu'on est un peu... qu'on a cette singularité ou qu'on est un peu handicapé.
On va parler de singularité.
Oui, on dirait, mais bon, quand bien même, vous savez, c'est pas grave, finalement, faut... finalement, avec ce film, je suis sorti du bois, je le dis, puis apparemment, ça va aider beaucoup de gens à révéler, aussi à faire leur coming out auditif, puisque dans les salles où je suis passé en tournée province, j'ai beaucoup de gens, et notamment beaucoup de femmes, qui ont pris la parole pour dire haut et fort leur malentendance. Donc je me dis, ce film, sans le savoir, finalement, c'était pas le but premier, mais il va peut-être faire œuvre utile. C'est bien.
Alors, on est fait pour s'entendre. Prouve vraiment que les comédies feel good peuvent être intelligentes. Et puis, il y a plein de grilles de lecture dans ce film. Il y a effectivement le regard de l'autre, la transmission, le cercle familial, s'autoriser à tomber amoureux ou pas. Et vous avez une sacrée bande d'acteurs, Pascal Elbé. Beaucoup de femmes d'ailleurs, Sandrine Kiberlin, Valérie Donzelli, Emmanuelle DeVos, Marthe Villalonga, Claudia Tagbo. Vous adorez diriger les actrices.
Oui, bah d'abord j'ai eu beaucoup de chance comme acteur parce que j'ai souvent des femmes qui ont posé un regard sur moi, qui m'ont fait travailler, donc je suis reconnaissant. Et puis, c'est vrai que j'aime les femmes. J'aime les femmes, j'aime être accompagné de femmes, j'aime la compagnie des femmes.
Là, il nous faudrait
femmes.
Vraiment des caméras, il faudrait que cette émission de radio devienne une émission de télé, parce que si, il faut voir le regard de Pascal Elbé, soudain, les yeux qui se plissent, les prunelles qui brillent, il dit, c'est charmant.
Non, mais la c'est vrai, j'aime les femmes. Après ce film-là, il y a un autre film qui va sortir dans lequel j'ai participé, qui s'appelle Rose, avec Françoise Fabian, qui est un film que je vous recommande, et ça parle d'un retour de flamme, d'une femme d'un certain âge qui retrouve l'amour le temps d'une nuit, d'une soirée, et j'ai beaucoup de plaisir à accompagner Françoise Fabian. Encore une fois, c'est parce que je me noie dans le regard d'une femme. Ça me donne encore le vertige, tant mieux.
On retrouve tout de suite Pascal Elbé.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
On est fait pour s'entendre, et la comédie qu'il faut courir voir en salle. Elle est signée Pascal Elbé. Et je reçois Pascal Elbé. Alors, cher Pascal, quand on a grandi à Strasbourg et qu'on vient d'une famille de cheminots, votre grand-père et votre père étaient cheminots, il est long le chemin qui mène au plateau de cinéma ?
Oui, il est long, mais tant mieux. C'est parce qu'il est long que votre réflexion s'aiguise, votre envie se peaufine. Mais évidemment, c'est un peu... Moi, je ne suis pas bel ami, je ne suis pas venu à Paris forcément pour briller. Je suis venu à Paris pour essayer de trouver ma place, et après ça vous accompagne pendant tout votre parcours, parce que vous êtes quelque part invité. Vous n'êtes pas un Parisien, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en terre étrangère, donc il faut finalement vous passer votre vie finalement à essayer, dans le regard de l'autre, de
vous
faire adouber.
Ouais,
de vous faire adouber,
légitime.
De vous faire accepter. En fait, vous restez un provincial jusqu'à la fin de votre vie, mais c'est vrai que c'est aussi comme ça que votre regard s'aiguise.
Mais pourquoi êtes-vous acteur ?
Vous savez, j'étais acteur au début pour partir de... J'ai grandi à Strasbourg et j'avais envie d'ailleurs. J'avais envie de... On pensait, quand on était jeune, on était encore appelé par la grande dame, par Paris. Je pensais que c'était là-bas que ça se passait. J'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de vivre. J'avais envie de vivre et j'avais envie de rencontre. Et après, j'ai choisi ce métier-là parce que je pensais que ça pouvait me faire voyager, de me faire vivre des rencontres un peu plus fortes. Voilà. J'avais besoin d'exotisme et d'aventure. Donc je pensais que le cinéma allait me l'offrir. Mais en réalité, pas le cinéma. Quand on démarre, nous, à l'époque, ce métier, on pensait d'abord juste théâtre et juste essayer de faire notre exercice. Mais au début, on pense naïvement qu'on fait ça pour les autres. Et puis le jour où vous faites une thérapie comme tout le monde, ou comme la plupart des gens, vous vous rendez compte que vous faites d'abord ça pour vous.
Oui, parce qu'il y a une scène savoureuse que j'aimerais que vous nous racontiez. Il paraît que lors de votre toute première séance chez un psy, Pascal Elbé, quand vous lui avez raconté que vous faisiez ce métier pour donner du bonheur aux gens, il vous a ri au nez.
Évidemment, personne... Vous savez, il faut toujours se méfier des gens comme ça, qui sont animés par une espèce d'empathie absolue, d'altruisme exacerbé. On fait d'abord ça pour soi.
Qu'on soit chanteur, qu'on soit acteur,
évidemment,
on rêve d'être dans la douche de lumière.
Ben oui, on rêve d'avoir son ego flatté, on a besoin d'exister, donc évidemment on a besoin que cette lumière va nous donner une existence plus dense, plus immédiate, alors qu'en réalité on essaye juste de se sauver soi-même, donc c'est tout.
Vos parents aimaient le cinéma ou bien ils y étaient indifférents ?
Non, pas indifférents, mais vous savez, le cinéma à l'époque, ça se résumait beaucoup à une séance tous les 2 ans, et sinon c'était surtout les 3 chaînes de télé. Moi, j'ai appris le cinéma, notamment le cinéma quand j'étais petit, qui me parlait, c'était le cinéma italien d'après-guerre, vous savez, tout ce néo-réalisme italien.
Les films
italien.
De Dino Risi, les films de Marco Ferreri.
Ah mais absolu, moi, je pensais que que ce soit Mastroianni, que ce soit Nino Manfredi, enfin voilà, on peut tous les Tony Haddi, je croyais que c'était mes tontons, moi j'ai cru que c'était vraiment...
C'est tout, en fait tout le néo-réalisme des années 50,
oui,
quoi.
Oui, et j'adorais, parce qu'après j'ai eu là beaucoup de chance, comme vous le savez, j'ai côtoyé beaucoup Philippe Noiret, puis ben, ses camarades de classe, qui étaient Jean Rochefort et les autres, Marielle, ben, ils avaient quand même posé sur la vie et les choses quand même un regard un peu distancié, qui fait que évidemment, ça aide à vivre parce que c'était drôle, il y avait de la dérision, il y avait aussi beaucoup de respect. Parfois, chose que je vois plus tellement dans les gens que je croise aujourd'hui, je pense qu'on prend un peu les choses un peu trop à cœur et un peu trop, j'allais dire, au premier degré. J'aimais ce regard qu'ils portaient sur le...
Un peu distancié.
Oui, oui. En fait, ils ne se prenaient pas au sérieux, hein, pour parler
pas
simplement.
Au sérieux. Voilà. Alors, parmi les metteurs en scène, effectivement, qui vous ont fait vibrer quand vous étiez ado, il y a, paraît-il, Kurosawa, les Sept Samouraïs, ou alors Truffaut pour L'Enfant Sauvage.
Alors, il y avait L'Enfant Sauvage, et d'ailleurs, c'est quand même étonnant, vous savez, on peut parler aussi d'initiation et d'éducation. En fait, c'était la cinémathèque de mon lycée qui passait... Le train sifflera trois fois, L'Enfant Sauvage et Les Sept Samouraïs. Donc c'était évidemment des films qui étaient, la pellicule était râpée, on essayait d'entrevoir ce qui se passait dans l'écran, mais ça m'a fait rêver, ça m'a complètement évidemment fait voyager, et je reste encore aujourd'hui très attaché à mes premières impressions de cinéma. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, Truffaut, un de mes films favoris que j'ai revu avec beaucoup de plaisir récemment, bah, L'Homme qui aimait les femmes.
L'Homme qui aimait les femmes,
Charles
avec
Denner,
bien sûr. Mais Truffaut, quand même, bon, lorsqu'il a participé à la naissance de La Nouvelle Vague, alors qu'il écrivait au Cahier du Cinéma, bon, La Nouvelle Vague, vous, j'ai lu des interviews dans lesquelles vous la contestiez. Vous dites que lorsqu'elle est arrivée, cette Nouvelle Vague, elle a tout déconstruit.
Oui, enfin, pour le meilleur et pour le pire, mais parfois pour le pire. Elle a tout déconstruit, c'est vrai qu'on est passé dans un cinéma de chronique, on était dans une autre narration, alors que juste avant, que ce soit Melville ou les autres, on était dans quelque chose, on était dans un univers très fort, mais avec un début, un milieu, une fin, quelque chose de beaucoup plus construit, alors que là, ils ont pris tous un malin plaisir à tout déconstruire, mais finalement... J'ai l'impression que ce qui va rester, en tout cas pour moi,
oui,
ce sera ce cinéma-là. Moi, je suis encore nostalgique de Lubitsch, de Mankiewicz. Ça allait à 100 à l'heure. C'était construit, c'était bâti. Et pourtant, on avait beaucoup d'émotions. Beaucoup plus qu'un certain cinéma de la Nouvelle Vague. Mais encore, il y a quand même un certain cinéma de la Nouvelle Vague que, évidemment, qui m'a quand même beaucoup plu.
Comme, par exemple ?
Bah, je sais pas, à bout de souffle, il se passe quelque chose. Il y a toujours des choses. Mais voilà, c'est pas ce cinéma-là, moi, qui m'a le plus marqué, influencé.
Parce qu'en fait, la Nouvelle Vague, c'était, alors pas de raccord, des coupes franches, des scènes tournées caméra à l'épaule, les dialogues improvisés par les acteurs.
Ouais. Et parfois au bout, un ennui profond.
C'est vous qui le dites, Pascal Elbé.
Parfois, pas dit toujours.
Il paraît que c'est grâce au film d'Henri Verneuil, avec par exemple Belmondo, que vous avez découvert Paris. Vous avez découvert en fait un Paris fantasmé par le cinéma, c'est ça ?
Ah, mais absolument, d'ailleurs je pense que j'ai décidé d'aller à Paris à travers ce que je voyais de ce Paris filmé, ce Paris de cinéma. C'est vrai que c'est le cinéma une puissance évocatrice pour un jeune, ce qui est absolument fou, soit le cinéma de Verneuil, mais... J'ai envie aussi de vous parler d'un certain cinéma, même d'Yves Robert, dont on ne parle plus assez aujourd'hui.
Ouais,
mais ce cinéma-là, qui était, voilà, voir ces mecs-là même de sauter, évidemment, on parle toujours de sauter, mais à raison. Voir ces mecs qui refaisaient le monde comme ça dans un café parisien, pour moi, c'était absolument... je voyageais, c'était complètement différent de ce que je vivais moi dans ma petite province.
Alors, bien sûr, le bac en poche. Eh bien, vous avez quitté Strasbourg pour Paris, mais ça c'est une autre histoire. On va vous compter dans un instant avec Pascal Elbé.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Un bijou de comédie romantique drôle et parfois grinçante, touchante et d'une grande justesse est en salle depuis mercredi. Elle a pour titre « On est fait pour s'entendre » et je reçois celui qui l'a écrite, réalisée et qui tient à l'écran un rôle presque autobiographique devant Sandrine Kiberlain, c'est Pascal Elbé. Alors, cher Pascal Elbé, quand on arrive seul, à 18-19 ans, voilà, je continue de dérouler le fil de votre histoire. Donc, seul, à 18 ans, valise à la main, dans la ville de toutes les promesses, Paris, et qu'on y vient pour devenir acteur, L'euphorie, bien sûr, dépasse le stress, mais la réalité est là qui rôde et qui guette pour vous avaler. Alors, faut payer sa chambre de bonne à la Courneuve ou à Aubervilliers, faut payer ses cours de théâtre. C'est compliqué tout ça quand on n'a pas de connexion, on connaît personne. On commence comment ? On s'organise comment ?
Bah, c'est fou en fait. C'est quand même, quand je revois cette période-là, c'est quand même, on est d'une insouciance et d'un. On pourrait dire, oui, plus que d'un courage, on est d'une insouciance folle quand même. C'est de se dire comment on peut être animé par un rêve pour se. Pour affronter un quotidien aussi rude, parfois tous les deux jours on déménage, on squatte à droite et à gauche et on a cette espèce de truc cheville au corps, là on se dit je veux rester ici, c'est ma place est ici, quel que soit le tarif à payer. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui ça me paraît vertigineux, je me dis mais comment j'ai pu affronter ça sans tomber. Et en réalité c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'en fait c'est le chemin qu'on accomplit, en fait on est comme souvent les gens, on soupçonne pas parfois nos ressources. C'est devant l'épreuve, devant le mur qu'on peut rebondir, qu'on peut. Et je trouve ça assez rassurant, évidemment. Et en même temps, peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être moins dur. Peut-être qu'on pouvait avoir moins peur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit une époque où je croise beaucoup de solitude et beaucoup de peur. Évidemment, on est dans une époque très clivée où on est pour ou contre. Il y a des murs invisibles qui s'érigent un peu partout autour de nous dans la discussion. On perd toutes nos interfaces humaines, on est maintenant dans les métiers de service, on parle à des machines. Tout ça, ça peut nourrir un certain stress, une certaine peur. À l'époque, on était quand même un peu plus liés les uns avec les autres, donc peut-être aussi que c'était un peu plus facile de se retrouver du jour au lendemain dans la capitale pour faire ce métier, ou en tout cas pour essayer de faire son trou.
Pour essayer, effectivement, de faire son trou, parce qu'il paraît qu'au tout début, vous avez été, c'est extraordinaire, vous allez nous dire si c'est vrai, cireur de chaussures dans le métro, comme dans les films américains des années 70.
Ouais, j'ai fait ça.
J'imagine les scènes, avec les films avec De Niro, cireur de chaussures. Dites donc, heureusement que c'était il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui tout le monde porte des baskets, le job il a disparu. Hein.
Ah ouais, j'aurais été chômage technique pendant, mais c'est vrai que j'ai fait tous ces petits boulots, c'est vrai.
Opérateur téléphonique aussi, gardien de nuit, tout ça vous avez connu, vraiment?
Oui, gardien de nuit, c'était au musée de la Villette, et j'étais dans une espèce de petite guérite à l'entrée du musée, la nuit, j'étais donc gardien de nuit. Donc il y avait
vous
la
restiez
nuit.
Combien de temps? Oui, elle devait être terriblement longue.
Ah oui, c'est ça, c'était beaucoup, des grands moments de solitude quand même. J'imagine que ces étapes-là vous construisent quand même.
Et vous lisiez alors, quand vous étiez gardien de nuit, vous faisiez quoi?
Je lisais, mais j'étais pas très fort dans mes choix de lecture. Je me rappelle que j'avais lu, je crois, Le Château de Kafka. Si vous voulez bien être plombé pour la nuit, vous emmenez Kafka. Il fallait être complètement à la masse quand même pour prendre du Kafka le soir. Mais je me rappelle très précisément que j'avais eu très peur parce que je lisais Le Château et j'ai dit mais qu'est-ce que je fous avec ce bouquin dans les pages?
Ici, en plus, à cette heure-là. Bon, Pascal Elbé, les cours de théâtre ne vous ont pas directement amené au cinéma. Ils vous ont d'abord fait grimper sur des scènes comme celle du Splendide ou du Café de la Gare. Donc, votre premier registre, ça a été le comique.
Ah oui, j'étais. En fait, ce film-là, je renoue un peu avec mes premiers amours. J'étais dans la comédie, j'étais dans un petit cours de théâtre qui s'appelle Cours Viriot, et j'ai des camarades là-bas qui m'ont raconté le Splendide. Je connaissais très peu. Et donc, j'ai découvert le rythme, la comédie. Et évidemment, pour moi,
Vous avez intégré une espèce de troupe, en fait.
Oui, on a constitué une troupe, on a joué. On a écrit des pièces qui s'appelaient Charité bien ordonnée, qu'on avait joué au Splendide et dans d'autres théâtres, au Café de la Gare. Après, on avait écrit une pièce qui s'appelait Tout baigne, qui est devenue un film, d'ailleurs, qu'on a joué avec François Morel, notamment, et Isabelle Gélinas. Et c'était, en fait, peut-être parmi mes plus belles années, parce que c'était les années de troupe. C'était les années, on était en colcause en permanence, on réfléchissait à plusieurs.
En colcause artistique. Alors vous écriviez, parce que en fait, vous avez intégré Pascal Elbé, l'univers du cinéma, d'abord par l'écriture, comme scénariste. Il paraît que vous écriviez des sketchs pour le petit théâtre de Bouvard, c'est vrai?
Oui, parce qu'en fait, on avait un prof de théâtre qui nous avait dit, soyez dans la proposition, n'attendez pas que le téléphone sonne. Et donc je me suis mis à écrire et ça a été finalement c'est mon premier métier, c'était d'abord d'écrire pour les uns et pour les autres. Je me suis même retrouvé à écrire pendant un an pour le Cirque du Soleil.
C'est pas vrai?
Où je devais écrire pour les clowns un peu partout dans le monde.
Incroyable!
Ouais, donc je me suis retrouvé un peu à sillonner la planète pour proposer des sketchs aux clowns du Cirque du Soleil. Vous voyez tout ça?
Les mille vies de Pascal Elbé. Ouais, ça, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est dingue.
Mais comment écrit-on pour des clowns qui vont jouer devant des publics si différents? Parce que je ne sais pas si le rire, il est universel ou il y a des codes particuliers
non,
en Asie, vit en Russie.
Ah, vous avez raison, un clown russe n'a rien à voir. Un clown russe va déplacer de la mélancolie. Il y a quelque chose de beaucoup plus...
Le rire slave, plein de larmes.
C'est ça, alors qu'on avait des clowns brésiliens qui étaient dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, léger, festif. Donc c'était notre grammaire. Mais je me suis régalé, ça a été pendant un an. Et j'habitais à Montréal et je voyageais un peu partout pour accompagner ces clowns. Et en fait, c'est aussi une expérience qui m'a bien nettoyé, qui m'a redonné le goût aussi du travail bien fait, de l'exigence.
C'est extraordinaire. Alors, Pascal Elbé, le film qui vous a enfin donné votre vraie dimension, c'est Père et Fils, en 2003, réalisé par Michel Bougenat, et dans lequel vous aviez un double investissement, puisque vous étiez co-scénariste du film, et puis à l'écran, vous jouiez l'un des trois fils de Philippe Noiret. Ça a été comme une sorte de naissance au cinéma, ce film ?
Oui, c'était d'abord, c'était une naissance qui arrive par le bon endroit, c'est-à-dire que c'est pas un casting où on vous prend, puis d'un coup sur un malentendu, vous devenez une vedette, et puis tout d'un coup, là c'était un travail de longue haleine, on a écrit ce film-là au moins pendant 7-8 ans avec Michel Bougenat. Oui, mais il habitait une très belle maison à Saint-Paul-de-Vence.
Vous auriez pu continuer d'écrire pendant 12 ans.
Largement, parce que j'avais pas de résidence secondaire, donc j'aurais pu travailler genre 20 ans chez lui, et on a écrit ça très longtemps. Et c'est vrai que c'était une somme de travail, de doute, d'angoisse. Et puis un jour, on vous dit feu vert. Philippe Noiret rejoint l'aventure quasiment au début. Donc on noue une relation à part. D'un coup, je suis adoubé par M. Noiret. Et puis tout doucement, on arrive à entretenir une relation assez filiale finalement. Et ce film se fait. On part tous ensemble au Canada. Donc évidemment, ça resserre les liens d'être un peu loin de tout, loin des nôtres.
Donc avec Bougenat, Noiret, Puzulu, Charles Berling.
Voilà. Et c'est vrai que pour l'anecdote, au début, on n'arrivait pas à trouver un des frères. Donc j'ai réécrit un des personnages pour que ce soit une sœur. Et Philippe Noiret nous a dit non, je veux mes garçons. Parce que je suis entouré de ma femme, de ma fille, de ma petite fille. Je veux des garçons. Donc on a trouvé finalement Charles Berling qui a rejoint l'aventure et on était en fait ses trois fils, réellement ils nous avaient choisis, ils voulaient nous, ils voulaient cette petite famille là et donc on a vécu évidemment ça dépasse le cadre du cinéma, on a vécu une aventure presque familiale au Canada et ça a été moi quand au retour du film, quand le film est sorti, avec le succès que vous connaissez, et ça a été ma naissance un peu dans la famille du cinéma.
Bien sûr. Et alors, de Philippe Noiret, vous dites, Pascal Elbé, qu'il a été l'une de vos plus belles rencontres dans ce métier. Et justement, dans Père et Fils, Philippe Noiret jouait ce que vous aviez écrit. C'est-à-dire que le co-scénariste, j'imagine que vous êtes, était fier et troublé de voir ses idées prendre vie à travers un acteur aussi immense que Noiret.
Ah oui. Vous voyez, c'est arrivé par le bon endroit dans ce métier, c'est-à-dire... C'est par ces sommes de travail, et tout d'un coup, vous voyez cet homme qui a une voix si particulière et qui va animer votre texte, qui va l'amener encore ailleurs, au-delà. Et je me rappelle de la première journée de tournage, la première scène qu'on a fait, tous les deux. C'était fou, parce que quand on a entendu couper, je me souviens de Philippe Noiret qui m'a pris, qui m'a soulevé dans les airs de bonheur. Il était heureux d'être là avec nous, et il m'a soulevé dans les airs, on était face à un lac. C'est un souvenir fou. J'avais cet homme comme ça qui était dans la dernière ligne droite de sa vie, qui avait toujours autant de plaisir, autant de jubilation à être accompagné et à accompagner l'autre. Moi, ça a été une de mes plus belles rencontres.
Alors, Pascal Elbé, pour votre performance d'acteur dans Père et Fils, aux côtés de Philippe Noiret, vous avez été nommé pour le César du meilleur espoir masculin. Vous aviez 36 ans. Ça fait quoi de jouer dans la catégorie espoir à 36 ans ?
Vous savez... Je me suis jamais vraiment senti légitime dans ce petit milieu-là, germano-pratin du cinéma. C'était assez bizarre. J'avais l'impression qu'il s'était un peu trompé. Et puis d'un coup, on a une reconnaissance. Mais la plus belle reconnaissance, évidemment, j'étais très flatté d'être au César. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand on vous propose une Légion d'honneur, vous le faites surtout pour vos parents. Moi, je sais que la joie absolue de mes parents ou de mes proches, quand ils ont entendu que j'étais nominé pour les Césars, moi, en ce qui me concerne, mes plus grandes joies sur cette aventure-là, c'est quand le film est sorti que j'ai vu le public.
Ouais.
C'est le public qui nous fait vivre. La profession nous finance, mais le public nous fait vivre.
Ouais.
Encore aujourd'hui, quand je fais la tournée province de mon film...
On est fait pour s'entendre.
Voilà, on est récompensé. Je suis vraiment récompensé parce que de mon travail, c'est là que je sais si j'ai bien ou non travaillé.
Pascal Elbé, On est fait pour s'entendre est en salle depuis mercredi. Mais bien en amont, vous avez effectivement rencontré, en sillonnant l'Hexagone, le public, et vous avez compris que ça allait être une réussite. Mais ça n'existait pas, il y a encore une vingtaine d'années, d'aller présenter des films comme ça. C'est tout à fait nouveau, ces rencontres anticipées avant la sortie officielle d'un film. Comment c'est venu, ça ?
Bah, c'est venu parce qu'en réalité, on s'est quand même vite rendu compte que pour exister, il faut prendre sa petite mallette et puis aller rencontrer un peu son public, il faut aller au contact.
Et encore donc une on fois, fait VRP cinéma.
Oui, mais j'aime pas dire tellement VRP non, parce non, qu'en réalité, c'est moi nous au cinéma, on est un peu coupé.
Je plaisante.
Non, mais en promo, par exemple, on est un peu VRP avec notre bande-annonce et tout, mais sinon, quand on est en tournée province, j'appellerais pas tellement ça de la promo. En réalité, on est un peu coupé quand même hein, dans ce métier, on est quand même vite dans une bulle. C'est la seule façon de savoir comment on a travaillé, on est récompensé parce qu'on entend un rire, un vrai rire, ça c'est le public. Heureusement qu'on a inventé ces tournées province, moi pour moi c'est la récompense absolue, c'est fatigant, mais quel bonheur.
Alors, je reprends le fil de votre histoire, oui. Pascal Elbé. Scénariste, acteur, mais le Graal pour vous, bien sûr, c'était de devenir réalisateur. Ce que vous êtes devenu en 2010 avec Tête de Turc, qui a été nommé au César dans la catégorie première œuvre. Rien ne vous met plus en joie que réaliser un film, c'est ça ? Jouer ou l'écrire à côté, c'est tiède ?
Non, c'est pas tiède, mais disons que réaliser, c'est l'implication ultime. C'est on appuie sur tous les boutons. On est un peu Dieu.
Oui, c'est
temps.
Ça. Ouais. Vous êtes un vrai démiurge en fait quand vous réalisez.
Ouais. Et puis vous savez, c'est d'un coup vous avez pensé à une idée comme ça dans un coin de votre tête, et puis un jour vous voyez sur un plateau une cinquantaine de personnes qui travaillent avec vous, et puis un jour vous êtes devant un public pour présenter cette histoire. C'est quand même un joujou fou, c'est quelque chose d'absolument renversant et magique de réaliser un film. C'est un fantasme qui se concrétise sous vos yeux. C'est complètement vertigineux.
Mais alors, vous réalisez, chaque fois ce sont des films très réussis, applaudis autant par la critique, le métier que par le public. Vous n'avez pas fait la FEMIS, l'école de cinéma. Donc vous avez appris la réalisation sur le terrain en observant depuis, j'ai envie de dire, votre poste d'acteur. Ça veut dire que, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire une école de cinéma ?
Écoutez, nécessaire et indispensable. Je sais pas. Non, je sais pas, je dirais que vous savez, c'est comme pour tout, ça dépend de votre sensibilité, de votre regard. Moi, j'ai beaucoup appris en étant spectateur, en étant peut-être acteur, sans doute. Surtout spectateur, je pense. C'est les films qui m'ont nourri. Apprendre la grammaire du cinéma, il y a des écoles pour ça et c'est sans doute utile, mais vous savez, pour moi, ce qui compose un cinéaste, qu'est-ce qui fait un réalisateur ou un cinéaste ? C'est ce qu'on appelle le point de vue. Le point de vue, ça se démarre quand vous écrivez. Après, c'est où vous allez mettre votre caméra, où est l'enjeu de la scène. C'est ce qu'on appelle le regard, le point de vue. On peut être un très bon technicien, avoir appris toutes les techniques du monde. Si on n'a pas ce point de vue, on va faire de l'emballage, on va faire quelque chose d'assez esthétique ou formel. Mais le point de vue, c'est ce qui fait que, vous savez, on parlait par exemple, si je vous disais, c'est quoi pour vous votre meilleur biopic, voilà, un des meilleurs biopics que vous ayez vu au cinéma, c'est quoi ?
Le meilleur biopic que j'ai vu au cinéma.
Un des bons biopics que vous avez vu.
Oh, j'ai envie de parler de Marion Cotillard dans La Môme.
Dans La Môme, parce qu'il apporte un vrai point de vue, il a déconstruit l'histoire, et on est dans une liste. C'est complètement ébouriffant, et c'est un univers qui appartient vraiment à Dahan. Moi, je citerai par exemple The Queen de Stephen Frears, où on est quand même avec la reine d'Angleterre qui est perdue au milieu d'un bois, dans un manoir, elle croise une biche, et à la fin de la. Et à la fin du film, on est sûr d'avoir compris c'était quoi le poids de la famille royale. C'est ça le point de vue. C'est pas de raconter toute l'histoire de la reine d'Angleterre en étant à Buckingham et de raconter les ors de la royauté, etc. Non, il a un point de vue très précis, et là, et pourtant à la fin, on est avec elle.
Eh bien, vous savez quoi, Pascal Elbé, vous venez de citer Stephen Frears. On va justement l'évoquer dans un instant, parce que vous l'avez rencontré dans des ateliers d'écriture. Dream Ago, on va en parler tout de suite. On retrouve immédiatement Pascal Elbé.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Pour réchauffer novembre, il faut aller voir On est fait pour s'entendre. Comédie romantique inattendue, touchante et spirituelle, signée Pascal Elbé, mon invité. Alors Pascal Elbé, vous dites « Je suis un enfant de la Méditerranée ». Mais vous êtes né à Colmar et vous avez grandi à Strasbourg. Alors, il se manifeste comment les parfums d'Afrique du Nord, et plus précisément d'Algérie, qui infusent votre ADN ?
Mais partout.
Qu'est-ce qui reste de l'enfant de la Méditerranée ?
Si vous fermez vraiment bien les yeux, En insistant bien, même en mangeant une bretzel, vous sentez la fleur d'oranger. Moi, je suis très imaginatif. Mais en réalité, oui, moi, c'est ma famille. C'est...
Voilà, en odorama maintenant, en odorama, Europe 1. Mais... Voilà, Pascal Elbé embaume la fleur d'oranger, je vous le dis.
Mais c'est vrai que, oui, moi, je suis né en Alsace, mais même si c'est une région que j'aime beaucoup, je suis un enfant de la mer, de la Méditerranée, parce que c'est quand je suis près de l'eau que je revis.
Au soleil.
Et le soleil. Le soleil.
Le soleil.
Ah oui.
C'est pour ça que vous êtes prêt à aller co-écrire à nouveau des films chez Michel Boujna à Saint-Paul-de-Vence.
Ah oui, moi je bien même dans le pool house, là, pendant 6 mois, je ne bougerai pas, mais je suis là.
Votre maman vous a élevé sur les terres alsaciennes, mais en vous préparant la cuisine orientale de son enfance à elle. C'est-à-dire, est-ce que votre mère, elle vous préparait la mouna, qui est une brioche exquise, la loubia, qui est un plat de haricots blancs dans une sauce à la tomate épicée, et puis le couscous. Est-ce qu'elle vous préparait tout ça?
Alors, la loubia, c'est sûr. Pas forcément avant d'aller à l'école, parce que ça aurait été compliqué. Dans le goûter, l'autre, il sort un tupperware avec toute une loubia. C'est un peu lourd. C'est vrai que pour suivre après les cours, on est un peu assoupi. Mais bien sûr, elle me préparait. Et puis le couscous de ma mère, on est tous, nous, le couscous de ma mère, c'était un programme, c'était comme un film de Funès le mercredi soir. C'est des choses qu'on
pouvait
pas
rater. C'est un titre de film, déjà.
Ah hein, oui, le voilà. Couscous de ma mère, pour moi, c'est, il y a le château de ma mère, et puis nous, chez nous, c'est le couscous de ma mère.
Voilà.
Ouais, c'est clair.
Bon, Pascal Elbé, l'Algérie, c'est une terre que vous connaissez bien ou pas vraiment?
Non, je connais pas. Je connais beaucoup plus le Maroc et la Tunisie, même très bien. Mais l'Algérie, malheureusement, c'est une... Mais j'ai quelque chose qui me relie, évidemment, très fort. Quand je vois des images là-bas, quand je vois la culture, quand je vois ces gens-là qui s'expriment dans notre langue et tout, je sais qu'il y a quelque chose qui me relie. Mais malheureusement, j'ai failli faire un voyage et il a été aborté. Mais je suis encore, évidemment... ouais, l'Algérie a une place particulière dans mon cœur, c'est sûr.
Mis à part les 2 années où la planète s'est arrêtée, pour raison de Covid, vous voyagez beaucoup entre les tournages, vous aimez bien perdre vos repères et découvrir.
Ah oui. J'ai pas de repères, je peux quitter la France en 6 minutes, j'ai rien qui me retient ici.
Ah, vous êtes du genre à prendre un billet d'avion, plaf, comme ça
Ouais, et il y a même une chose que
sur un coup de tête, une humeur.
Quasiment. Et puis j'ai de la chance que je suis entouré. J'ai des amis, j'ai des copains, mais j'ai aussi des amis. Et malheureusement pour moi, ces amis habitent un peu loin, parce qu'il y en a qui sont aussi bien.
Heureusement, peut-être.
Ouais. Et ben heureusement, et du coup, j'ai la chance de pouvoir un peu me promener pour aller les visiter. Mais j'adore avoir un peu des points de chute un peu partout.
Celui qui habite le plus loin de vos amis, il habite où?
Oh ben, il y en a un qui est à un ami très proche qui est aux États-Unis en Californie, mais il y en a un autre qui est au Brésil, j'ai de la famille là-bas. Il y en a qui sont, oui, c'est un peu loin. Et puis un de mes meilleurs copains habite entre Vérone en Italie, ce qui est moins loin, mais aussi à New York. Donc c'est des gens que je vois peu, mais c'est indispensable de les avoir toujours pas loin. Ouais. Donc je vais les voir quand eux viennent à moi ou je vais à eux, mais de toute façon, c'est ma vie.
Pascal Elbé, votre fils Léo a 20 ans. Est-ce que le métier de son père le fascine?
Non, mais je ne sais même pas si son père le fascine tellement. Mais, avant de parler de son métier, mais j'habite avec lui, on habite tous les deux, on est comme un espèce de vieux couple. Mais il aime beaucoup, il fait une fac dans le digital, hein, de ce que j'essaye de comprendre. Et il est quand même, il est très aguerri là. Je pense que plus tard, peut-être même, il écrira.
Il écrira.
Il a quelque chose.
Vous l'aviez mis devant une caméra. Il paraît d'ailleurs qu'il a été très long à vous répondre. Hein. Vous lui avez dit, tu veux bien tourner dans mon film, un petit rôle comme ça, hein, et il vous a fait mariner pendant 2 mois. Mais il n'a pas envie d'être acteur. Non, écrire, ça l'intéresse plus.
C'est ça, peut-être par sécurité, je ne sais pas. Mais il est, en tout cas, il a évidemment qu'on fait un métier qui est très attractif. C'est l'affaire de tout le monde quand on fait ce métier à la maison. Mais... c'est vrai qu'il n'a pas nécessairement l'envie d'être dans la lumière, c'est étonnant.
Vous avez toujours votre maman, Pascal Elbé. Alors, comment a-t-elle réagi à la projection de « On est fait pour s'entendre », votre maman, en voyant donc ce film qui a les ingrédients de votre histoire personnelle?
Elle était évidemment très, très émue. En même temps, elle a beaucoup souri parce qu'elle a aussi compris certaines choses. Vous savez, c'est compliqué de se faire comprendre sur ce sujet-là. Même mon fils à qui j'habite...
Qu'a-t-elle compris, par exemple, qu'elle n'avait peut-être pas bien cerné jusqu'à la projection de ce film qui, à la fois, qui va concerner des millions de personnes, et d'ailleurs ceux qui n'ont aucun problème d'audition non plus, parce que, bon, on est tous embarqués par l'histoire, et en même temps, bon, votre maman, qui vous a vu grandir avec ce souci-là, elle savait ou pas?
Non, pas du tout.
Des soucis d'audition? Non, elle l'ignorait.
Pas du tout. Non, ça a été découvert très tard, et là, la découverte qu'il fallait être parfois avec moi un peu plus patiente, d'apprendre à répéter sans forcément moquer, c'est tout. Après, vous savez, même mon fils qui habite avec moi, il continue de me parler de la pièce voisine. J'ai beau lui dire que j'ai fait un film là-dessus, je pense que ça ne résout rien. C'est compliqué, cette histoire, quand même.
Bon, Pascal Elbé, en fait, le scénario de votre vie, bah, il est encore mieux que celui que vous auriez pu écrire, non ?
Écoutez... À vous entendre comme ça, je me dis pourquoi pas, oui, sans doute, peut-être.
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 Le film a pour titre On est fait pour s'entendre, avec donc Sandrine Kiberlain. Alors, elle est sidérante de justesse, hein, Sandrine Kiberlain.
Ah, oui. c'est
toujours au top niveau.
Oui.
Impressionnante, mais aussi Emmanuel DeVos, aussi Valérie Donzelli, aussi Claudia Tagbo, François Berléand, Marthe Villalonga. Vous avez embarqué une brochette d'acteurs. Éblouissant, ils ont tous dit oui sans aucune hésitation quand ils ont eu le scénario entre les mains.
Bah oui, oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Ah oui,
c'est
non, luxueux, j'ai ça, beaucoup hein. de chance. Je suis entouré avec des acteurs qui sont avec des Stradivarius, donc, et la plupart évidemment sont des gens qui sont mes amis. C'est
en
un
plus.
Peu comme une troupe. Voilà.
Bon, alors ne changez rien. Voilà, on est fait pour s'entendre. Est en salle depuis mercredi. Faut pas passer à côté de ce film. Merci infiniment, Pascal Elbé.
Voilà, merci à vous infiniment aussi.
À bientôt.
À bientôt.
Banque Coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France accompagne au quotidien ses clients et finance les projets du territoire pour une économie durable. La Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont des femmes et des hommes engagés qui agissent chaque jour pour être utiles à tous. Caisse d'épargne Île-de-France, le pari du développement.
Caroline Fourest, conseillère éditoriale de la rédaction de Franc-Tireur.
Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion.
Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux.
Retrouvez l'interview politique de Sonia Mabrouk
et Ça se plaide de Mathieu Noël
sur votre application Europe 1, Europe 1.fr
et vos plateformes d'écoute.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point fort fichier, bien sûr.
Eh bien, du 9 au 27 novembre, Point fort fichier fête Noël et t'offre jusqu'à 600 euros de remise sur les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point fort fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Europe 1, il est 14h, dans un instant la voix est libre, mais tout de suite c'est les informations avec Sophie Tusson.
Nouvelle nuit d'émeutes et de pillages en Guadeloupe. Malgré le couvre-feu, il a été imposé à la suite des dérives de la mobilisation anti-pass sanitaire. La nuit dernière, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs à balles réelles. De nombreux commerces et des banques ont été attaqués et dévalisés. Les porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dénonce ce matin une situation intolérable et inacceptable. Une cinquantaine de membres du GIGN et du RAID seront envoyés sur place. Demain, le Premier ministre Jean Castex se réunira avec les parlementaires et les présidents des assemblées de la Guadeloupe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour évoquer la situation. Aux Pays-Bas également, à nouveau, des émeutes hier soir contre les restrictions sanitaires, notamment à La Haye, où plusieurs policiers ont été blessés. Manifestation également à Vienne, en Autriche, pour protester contre le confinement et l'obligation de vaccination. Et l'Europe est en ce moment l'épicentre de la pandémie. Les voyants sont partout